La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.
Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Le professeur Pierre Fumolo a bien voulu, une fois de plus, contribuer à la réalisation de cette émission sur un sujet particulier concernant le cancer du pancréas. Alors on peut se demander pourquoi avoir choisi ce thème. Le premier, bien sûr, c'est parce que c'est un des cancers les plus agressifs que l'on rencontre. La seconde raison, c'est parce qu'il semble qu'il y ait une augmentation au niveau de l'incidence. Mais surtout, c'est parce que ce type de cancer donne une sorte de révolution dans le domaine du traitement des cancers en général, compte tenu des nouveautés qui viennent d'arriver. Et encore une fois, Pierre Fumolo, merci beaucoup de nous avoir aidés à préparer cette émission de façon à ce qu'on ait une information qui soit de plus en plus précise et surtout qui marque cette évolution considérable dans la prise en charge du cancer. Alors, peut-être que dans un premier temps, je vais demander à Pierre Fumolo s'il veut bien se représenter une fois de plus, mais je pense que vous connaissez déjà son intervention puisqu'il nous a fait l'honneur de nous aider depuis 2 saisons déjà.
Bonjour Jean-Pierre Didier, donc merci pour cette nouvelle invitation à vous parler effectivement du cancer du pancréas. Certes, qu'est-ce que c'est que le cancer du pancréas, son augmentation d'incidence, mais aussi effectivement, tu le disais, une révolution dans la prise en charge, dans le traitement. C'était donc dimanche dernier, la plénière du grand congrès américain qu'on appelle l'ASCO à Chicago, où il y a été mis en évidence une révolution dans le traitement à partir d'une thérapie ciblée qu'on expliquera donc au cours de cette interview. Donc Pierre Fumolo, je suis le directeur scientifique du Cancéropole Est, Bourgogne-Franche-Comté et région Grand Est, après avoir été directeur général du centre Georges Leclerc à Dijon et de l'Institut Curie à Paris.
Donc une compétence parfaite pour cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors avant peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet du cancer, peut-être faut-il s'intéresser un instant sur ce qu'est cet organe, le pancréas, qui, du point de vue physiologique, joue sûrement un rôle important, qui d'autre part est dans une situation anatomique un peu particulière, qui fait que souvent le diagnostic de cancer du pancréas est tardif. Donc est-ce qu'on pourrait peut-être, Pierre, préciser un petit peu à quoi ça sert cet organe et où il est situé?
Oui, alors le pancréas effectivement est un organe vital qui est situé dans la partie supérieure de l'abdomen, un organe très profond, situé certes près du foie, mais un petit peu en arrière, qui mesure 15 cm de la tête à la queue du pancréas. Alors pourquoi ce pancréas est vital? Premièrement, il sécrète des enzymes, c'est ce qu'on appelle la fonction exocrine, des enzymes qui vont être véhiculées par un canal et ces enzymes vont arriver au niveau du duodénum et vont permettre tout simplement la digestion, ces enzymes telles que l'amylase ou des lipases. Donc ça, c'est la première fonction qu'on pourra appeler exocrine du pancréas. Il y a des canaux à l'intérieur du pancréas qui permettent de véhiculer ces enzymes, et nous verrons tout à l'heure que le cancer du pancréas, qu'on appelle glandulaire, naît justement de ces canaux. Deuxième fonction qui est aussi très importante, c'est une fonction endocrine, c'est-à-dire la sécrétion d'hormones. L'hormone la plus importante par définition, c'est l'insuline. Insuline qui permet de baisser votre taux de glycémie, votre taux de sucre dans le sang. Et il y a des diabètes qui sont liés justement, qu'on appelle insulinodépendants, qui sont liés à une diminution, voire une perte de sécrétion de l'insuline par le pancréas. Donc deux fonctions, exocrine et endocrine.
Et alors, quant à sa situation anatomique, on dit souvent que c'est un organe qui est caché. Donc, ce qui fait que la détection d'une tumeur à son niveau est relativement tardive, parce que d'abord, on ne peut pas le palper, et que d'autre part, il est un peu secret dans notre organisme. Est-ce qu'on peut donner quelques précisions quand
Oui, tout à fait. Il faut savoir que globalement, pour faire un cancer du pancréas, on pense qu'il faut 15 ans. Donc, il y a au départ un cancer qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qui se développe au niveau du canal, et c'est au bout d'un certain temps d'évolution que ces cellules vont rompre la membrane basale et aller directement à l'intérieur du pancréas, et on appelle cela un cancer du pancréas glandulaire, adénocarcinome invasif. Et à un stade ensuite, il y aura donc des métastases. Mais comme tu le dis, c'est un organe profond, donc on n'a pas de diagnostic possible par la palpation. Prenons l'exemple d'un cancer du sein, hein, c'est à peu près la même histologie au niveau anatomopathologique. Un sein, c'est plus facile à palper qu'un pancréas par définition. Les images radiologiques des cancers pré-invasifs, les in situ, n'existent pas, donc on ne peut pas faire de diagnostic à ce niveau-là. Donc, ensuite, les signes cliniques sont, disons, assez, sont pas clairs. On peut avoir quelques douleurs épigastriques, mais on peut avoir aussi des douleurs épigastriques pour d'autres raisons. On peut avoir aussi des douleurs, disons, qui sont transfixiantes, allant dans le dos, là, peut-être il faut un peu se méfier. Mais quoi qu'il en soit, lorsque l'on fait le diagnostic de cancer du pancréas en 2026, 80% des cancers du pancréas sont déjà très avancés et ne pourront pas faire l'objet d'une intervention chirurgicale d'exérèse de la tumeur.
On est stupéfait quand tu dis qu'il y a environ 15 ans d'évolution avant la première cellule cancéreuse et le moment où on le détecte.
Oui. Mais c'est le cas de beaucoup de cancers. Hein. C'est les cancers qui passent d'une forme qu'on appelle pré-invasif, in situ, qui se développe dans un canal, mais à l'intérieur du canal, et qui ensuite, au fil du temps, avec accumulation d'anomalies génomiques, on en parlera, vont pouvoir rompre cette membrane basale et aller directement dans l'organe et donner une tumeur.
Donc, alors, dans la mesure où il participe à la sécrétion de l'insuline pour régler la glycémie, est-ce qu'il y a des manifestations qui pourraient se faire par rapport à des dérèglements glycémiques qui alertent ?
Oui, alors ça c'est une très très bonne question. C'est vrai que est-ce qu'il y a un profil de cancer du pancréas ? Alors on parlera peut-être, si tu poses la question, des facteurs de risque. Alors, globalement, concernant la glycémie, on reviendra sur les facteurs de risque après. Et concernant la glycémie, toute découverte d'un diabète brutal après 50 ans, associé à un amaigrissement, quelques douleurs abdominales, doivent évoquer un cancer du pancréas. Du fait de cette fonction glycémique, d'atteinte glycémique d'insuline par définition, qui peut arriver précocement dans le développement d'un cancer du pancréas. Là, tu as tout à fait raison.
Mais autrement dit, on peut avoir des insulinomes ?
Ce n'est pas tout à fait des insulinomes. C'est que un cancer... Alors l'insulinome, c'est une tumeur endocrine du pancréas, mais ce n'est pas la plus fréquente. La plus fréquente des tumeurs du pancréas, c'est ce qu'on appelle le PDAC, en anglais, c'est le cancer, l'adénocarcinome glandulaire du pancréas né dans les canaux. Mais cette tumeur va entraîner des perturbations, disons, de la sécrétion d'insuline qui entraîne à ce moment-là le diabète. Ça, et à côté, effectivement, de ces cancers, 90% sont des adénocarcinomes, il y a des tumeurs qui naissent un peu de cette fonction endocrine du pancréas, qu'on appelle les insulinomes, ou les tumeurs endocrines du pancréas, qui sont de meilleurs pronostics, qui ont un temps de développement plus lent, qui donnent moins de métastases que ces cancers classiques. Mais les cancers classiques canalaires, c'est malheureusement 90% des cancers du pancréas.
Donc il existe plusieurs types de cancers, dont le plus fréquent, le plus important, c'est l'adénocarcinome.
Adénocarcinome glandulaire du pancréas. C'est la même histologie que le cancer du sein, né au niveau des canaux. Dans le cancer du sein, c'est tout simplement les canaux qui permettent l'allaitement, avec ce passage in situ et ensuite invasif. Au niveau du pancréas, c'est la même chose. Ces canaux qui véhiculent les enzymes qui vont aller par le canal de Wiersung directement au niveau du duodénum pour permettre de la digestion.
Alors, on a une petite idée déjà du point de vue numérique en ce qui concerne la plus grande fréquence de ce type de cancer, mais est-ce qu'on a une idée sur le plan épidémiologique de l'augmentation éventuellement de l'incidence du cancer du pancréas, dont on a l'impression aujourd'hui qu'elle est plus importante qu'avant?
Oui, c'est vrai. Alors, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer du pancréas ou de cancer en général par an, c'est ça la définition de l'incidence. En 2023, en France, il y a eu 16 000 nouveaux cas de cancer du pancréas. Ce qui correspond, ça où le problème est important, à un doublement de l'incidence en 10 ans. Donc une augmentation qui est très importante de l'incidence, située entre 1 à 2% par an. Alors c'est un peu plus important chez la femme, je crois que c'est aux alentours de 2,1% d'augmentation par an et de 1,6% pour l'homme. Donc augmentation importante de l'incidence depuis 10 ans, ce qui fait que le cancer du pancréas devient un problème de santé publique. 13 000, c'est à la fois beaucoup. Quand on voit par exemple le cancer du sein, on est à peu près à 50 000 par an, c'est moins. Malheureusement, on guérit 85, voire 90% des cancers du sein en 2026. Au niveau récemment, on peut dire que la survie à 5 ans du cancer du pancréas est inférieure à 10%. Et la moyenne de survie du cancer du pancréas, d'un patient ayant un cancer du pancréas, à partir du diagnostic, est entre, disons, 18 mois, 24 mois maximum.
Donc cette évolution épidémiologique, elle pose quand même la question de facteurs responsables, parmi lesquels il peut éventuellement y avoir des facteurs génétiques.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les facteurs de risque qu'on connaît bien, le tabac, l'obésité, vraisemblablement la stéatose hépatique, et certains disent un peu ce qu'on appelle la malbouffe, c'est-à-dire l'utilisation on mange des produits ultra transformés. Et puis il y a d'autres, ça c'est, disons, quelque chose d'extérieur. Il y a aussi vraisemblablement des pesticides, puisqu'on dit actuellement qu'il y a une étude en France qui aurait montré une corrélation entre certains pesticides encore à déterminer et l'apparition de cancer du pancréas, en particulier dans la région des vignes, où on utilise, pour des raisons qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui, mais des pesticides. Mais cela est à vraiment démontrer. Il semble qu'il y ait plusieurs facteurs de risque. Alors, ce qu'on appelle les facteurs de risque exogènes. Et tu as des facteurs de risque qui sont liés aussi à ce qu'on appelle la génétique constitutionnelle, c'est-à-dire une génétique qui dépend de tes parents, en particulier un gène qu'on retrouve aussi dans le cancer du sein, qu'on appelle BRCA2, et le fait d'avoir un BRCA2 muté est un facteur de risque pour faire un cancer du pancréas. Il y a aussi BRCA1, il y a le PAPV2, donc il y a aussi des familles pour lesquelles il y a des agrégats de cancer du pancréas pour lesquels on n'a pas forcément encore déterminé le gène en cause. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on a ces mutations chez quelqu'un en bonne santé, on doit systématiquement les surveiller un peu plus que l'on ferait pour une population normale. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'épidémiologie des cancers du pancréas. C'est vrai que l'augmentation est importante. En France, nous sommes le quatrième pays dans le monde pour l'incidence des cancers du pancréas et le premier pays en Europe. Donc ça laisse un peu réfléchir, mais il faut faire, et tu as raison, des études épidémiologiques.
Et ces gènes, est-ce qu'on sait quelles sont les protéines qu'ils expriment? C'est des protéines particulières?
Alors, ces gènes, ça on appelle, c'est ce qu'on appelle la génomique constitutionnelle. Il y a une autre génomique qu'on appelle la génomique somatique. La génomique constitutionnelle est une génomique qui est liée de ton ascendance, père et mère. Et on sait que, par exemple, BRCA2, c'est un gène qui perturbe la réparation de l'ADN. Et on peut utiliser dans le cancer du pancréas, on considère que les cancers liés à des anomalies génomiques constitutionnelles, familiales, ça représente 5 à 10% des cancers du pancréas. À mon avis, c'est plus proche de 5 que de 10. Et dans ces cas-là, on peut utiliser des produits qui vont bloquer ces défauts de réparation, en particulier une molécule qui s'appelle le laparide. Mais ce sont quand même des cancers du pancréas qui sont très peu fréquents, ces formes familiales avec anomalies constitutionnelles. Et effectivement, on y reviendra, il existe des anomalies génomiques somatiques, c'est-à-dire des anomalies que le cancer va acquérir au cours de son évolution, et on parlera tout à l'heure de ce qu'on appelle CARAS, qui est une anomalie somatique avec des mutations, et qui ces mutations existent pratiquement dans 90% des cancers du pancréas, et cela a une incidence importante puisqu'on a actuellement des thérapies ciblées pour ce type de mutation.
Alors, juste une question en ce qui concerne les facteurs de risque, la stéatose hépatique, est-ce que l'éthylisme a un rôle ?
Oui, plus ou moins, parce que plus ou moins, mais pas. C'est lié à ce qu'on appelle au phénomène de stéatose hépatique ou l'éthylisme favorise, d'accord ? Mais ce n'est pas le facteur essentiel, si tu veux. Alors, le fait aussi d'avoir des pancréatites, pour certains, ça est un facteur de risque.
Est-ce qu'on peut imaginer dans ce cadre qu'il y a une prévention possible ou qu'il y a une détection possible par l'intermédiaire d'un test ou qu'est-ce qu'on peut proposer ? Est-ce que ça existe ?
Alors, la prévention, c'est donc empêcher un cancer ou même un pré-cancer d'exister. Pour l'instant, on n'est pas sûr de la prévention des cancers du pancréas ou avoir une vie saine, mais quand on a dit ça, qu'est-ce que c'est qu'une vie saine ? Globalement, éviter la malbouffe, par exemple, pourquoi pas ? Mais on n'a vraiment pas de prévention des cancers du pancréas, on ne sait pas. Le dépistage, qui est très utile et qui a montré son efficacité dans beaucoup de cancers, le cancer du sein, le cancer colorectal, au niveau du cancer du pancréas, ça n'existe pas. Tout simplement, c'est qu'on n'a pas de test, disons, de dépistage précoce des cancers du pancréas. Même l'IRM, si tu veux, faire une IRM à tout le monde, ça n'a pas été démontré que c'était efficace. Alors, une voie actuellement est en cours de développement. C'est ce qu'on appelle, grâce à l'intelligence artificielle, c'est rassembler beaucoup de données pour essayer d'avoir une approche qu'on appelle multi-omique, avec en intégrant à la fois des facteurs sériques circulants comme le CA19-9 et ce qu'on appelle aussi de l'ADM tumoral circulant. Et quand une tumeur se développe, elle va libérer de l'ADN dans le sang, une phénomène de lyse. Cet ADN, lui aussi, peut être muté. Et en dosant cet ADN, on pourrait potentiellement dépister un cancer du pancréas avant qu'il ne soit trop peu, disons, développé. Par contre, la sécrétion d'ADN tumoral circulant n'est pas énorme dans le cancer du pancréas, contrairement à d'autres tumeurs. Et il existe au niveau du cancer du pancréas une espèce de gangue fibreuse qui entoure la tumeur et qui fait que peut-être que le relargage de cet ADN tumoral circulant est, pas optimal. Quoi qu'il en soit, il y a des voies de recherche, on a aussi des vésicules extracellulaires, des exosomes, et l'équipe de Dijon, de Jessica Gobeau et de Carmen Garrido travaille sur ce sujet-là, essayer avec les vésicules extracellulaires qui sont libérées par la tumeur de pouvoir faire un diagnostic plus précoce. On n'est pas encore au dépistage du cancer du pancréas, pardon. Mais ça viendra, mais là, c'est encore trop tôt pour le dire.
Est-ce qu'on pourrait dire que dans ces conditions, on pourra définir un profil précancéreux ?
Oui, je pense qu'on pourra définir un profil précancéreux. Le meilleur moyen de définir un profil précancéreux serait de diagnostiquer les cancers pré-invasifs, c'est-à-dire avant qu'ils ne deviennent, invasifs. Mais ça, contrairement au cancer du sein, où on a par exemple des microcalcifications qui peuvent évoquer un cancer in situ, on n'a pas encore trouvé au niveau du pancréas un aspect radiologique par écho ou par IRM qui pourrait nous orienter sur ce cancer pré-invasif. Je pense là aussi que l'intelligence artificielle et, disons, l'étude de beaucoup de données pourront peut-être permettre d'évoquer, de mettre en place un profil radiologique en faveur de ces lésions pré-invasives qui donneront ensuite lésions, invasives, et ça serait mieux de traiter le cancer en pré-invasif, comme on le fait aussi pour le cancer du sein.
Mais si on résume cette première partie, un organe caché qui va évoluer pendant de très nombreuses années vers un profil cancéreux, qu'on peut difficilement détecter, donc ça veut dire que la révolution n'est pas là. Mais la révolution aujourd'hui, qu'on a annoncée, il faut quand même que nos auditrices, nos auditeurs aient un aspect positif, c'est dans le domaine thérapeutique. Et c'est dans ce domaine thérapeutique où il y a alors vraiment une évolution majeure qui s'est mise en place. Est-ce qu'on pourrait déjà essayer d'apprécier un peu mieux le niveau de cette révolution et pourquoi c'est une révolution.
Alors, juste revenir sur les 15 ans, parce que je vois que ces 15 ans t'ont beaucoup marqué. La majorité des 15 ans, ce sont les lésions pré-invasives. Hein, c'est ça le problème. Dès qu'on a une lésion invasive, ça va beaucoup plus vite, parce que c'est un cancer très, très, très proliférant. Alors, venons maintenant au traitement. Alors, jusqu'ici, le meilleur traitement des cancers du pancréas, c'était quand même l'exérèse. Par contre, comme je te l'ai dit, comme on en a parlé, 80% des tumeurs sont déjà très évoluées et ne peuvent pas faire l'objet d'une exérèse de la lésion au niveau du pancréas.
L'exérèse, c'est-à-dire la chirurgie.
La chirurgie. La chirurgie avait l'intérêt d'enlever la tumeur, de faire aussi ce qu'on appelle des prélèvements ganglionnaires pour voir un peu si les ganglions sont déjà atteints. En sachant que si les ganglions sont déjà atteints, le pronostic est par définition moins bon.
Les ganglions qui se situent...
Qui se situent dans la région mésentérique, c'est-à-dire la région qui est autour, si tu veux, du pancréas. Alors, il peut y avoir des tumeurs qui sont situées au niveau de la tête du pancréas, c'est le plus fréquent, mais il peut y avoir aussi des lésions au niveau de la queue ou de la partie intermédiaire du pancréas.
Alors, des lésions accessibles par la chirurgie qu'on dit à ciel ouvert ou peut-être par célioscopie ?
Le plus souvent, c'est quand même à ciel ouvert parce que le chirurgien a besoin de savoir ce qui se passe. Bon, peut-être là aussi qu'on pourra avoir une chirurgie par célio, voire une chirurgie robotique pour le cancer du pancréas. Mais je crois que globalement, on n'en est pas encore là. Les chirurgiens opèrent la tumeur. Alors, on peut s'assurer aussi que l'exérèse était complète. Donc la chirurgie, c'est quand même un acte important. Alors, avant la chirurgie, lorsqu'il y a une tumeur qui est très importante, il y a quelque temps maintenant, on a mis en point ce qu'on appelle une chimiothérapie néoadjuvante. Le cancer du pancréas,
néo-adjuvante,
je vais t'expliquer. Néo-adjuvante, ça veut dire avant l'intervention chirurgicale pour réduire le volume tumoral et essayer de rendre une tumeur qui n'était pas opérable, opérable. Et cette chimiothérapie néo-adjuvante se fait à partir de deux types de protocoles de chimiothérapie. Alors un protocole qui est français, c'est l'équipe de Nancy qui l'avait mis en point, qu'on appelle le FOLFIRINOX, à partir donc, disons, d'irinotécan, sans rentrer dans les détails, et puis d'oxaliplatine. Et autre possibilité, c'est le GEMSAR, qui est un antimétabolite associé au NAB paclitaxel, c'est-à-dire du paclitaxel, disons, en capsule. Donc c'était les deux protocoles de chimiothérapie qu'on utilise lorsque l'on fait une chimiothérapie néoadjuvante. Ça a montré une certaine efficacité et ça augmente un peu la survie des cancers du pancréas.
Donc, ce qui permet, dans un premier temps, de faciliter l'intervention du chirurgien. Exactement. En ayant une tumeur plus facilement accessible, plus petite.
Voilà, exactement. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si ce n'est pas opérable d'emblée, parce que malheureusement, ça existait beaucoup, ce que l'on fait, c'est une chimio...
Parce qu'une tumeur trop importante.
Alors, si l'exérèse a été complète, on peut, si les ganglions sont envahis, mais le plus souvent, faire une chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire une chimiothérapie préventive des métastases. Mais très souvent, malgré cette chimiothérapie adjuvante, cela progresse. Et dans les 80% des cas, rien n'est possible. Et s'il n'y a pas eu de chimiothérapie néo-adjuvante, on fait une chimiothérapie des métastases au stade métastatique. Une première ligne, le plus souvent le FOLFIRINOX, mais qui est, disons, assez mal toléré et réservé plutôt aux gens en bonne santé, et une chimiothérapie de deuxième ligne à partir de GEMSAR ou nab-paclitaxel. Et c'est là que l'histoire commence, parce que globalement, depuis 15 ans, on n'a fait aucun progrès au niveau des cancers du pancréas, et malgré ces chimiothérapies, on avait toujours cette même moyenne de survie entre 18 et 24 mois maximum, et un taux de survie à 5 ans inférieur à 10%. Et c'était le plus souvent des tumeurs du pancréas de type endocrine de meilleur pronostic. Donc voilà l'état des lieux avant donc 2026.
La révolution.
Alors la révolution, en fait, elle est à la fois dans la médecine de précision, elle est à la fois aussi dans ce que l'on appelle la révolution technologique ou l'innovation technologique, on parle d'innovation. Et puis elle est liée aussi à une petite biotech américaine qui s'appelle Revolution Medicine, dont le siège social est en Californie.
Alors, je ne suis pas sûr que tous nos auditrices et auditeurs ont bien saisi ce qu'était la médecine de précision.
Alors, la médecine de précision, je vous explique. 2000, les années 2000, c'était simple, le vieux concept de la cancérologie, un cancer, c'est-à-dire une tumeur, un microscope, et on a un cancer du pancréas et un cancer du poumon, et on les traite avec ce qu'on pouvait avoir à l'époque, surtout de la chimiothérapie, de la chirurgie, et de la radiothérapie, chirurgie, et puis l'oncologie médicale, la chimiothérapie, peut-être un peu de traitement hormonal pour les cancers du sein, mais le cancer du pancréas n'est pas hormonodépendant.
Donc on traitait le cancer non pas en fonction de sa caractéristique, mais en fonction de sa localisation.
La seule localisation.
On disait on traite un cancer du poumon.
Il y avait un seul cancer du poumon, un seul cancer du sein.
Alors que pourtant le processus néoplasique, enfin cancéreux, est souvent commun à l'ensemble de ces manifestations.
Voilà. Et apparaît la révolution, c'est tout simplement le séquençage des gènes. Qui a coûté très cher il y a quelques années. Maintenant, séquencer une tumeur, c'est moins de 1 000 euros. Hein.
Alors le séquençage, c'est-à-dire c'est la reconnaissance.
Alors, qu'est-ce que c'est que le séquençage ? C'est la carte de l'ADN tumoral. L'ADN tumoral, les gènes, on a 20 000 gènes à peu près, tous ne sont pas actifs.
Donc ce qui veut dire alors qu'on doit posséder un morceau de tumeur pour pouvoir faire l'examen.
Pour faire l'examen, pour faire une tumeur, on fait des biopsies, on fait des biopsies, et puis grâce...
Et sur le pancréas, c'est possible de faire une biopsie à distance ?
C'est tout à fait possible, parce que même si la tumeur ne peut pas faire l'objet d'une exérèse, on peut toujours aller faire une biopsie qui sont faites par échographie ou par scanner, voire IRM, radio guidé.
Donc relativement peu agressif.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, on a découvert des mutations. Et en fait, la cancérologie, le cancer, c'est quoi ? C'est un processus qui est lié à des mutations au niveau de l'ADN. Et des mutations qu'on appelle des mutations actives. Et maintenant, il y a plein de mutations qui sont connues. Alors, on cancer du sein, dans le cancer du poumon, il n'y a pas un cancer du poumon, mais il y a au moins une dizaine de cancers du poumon en fonction de chaque type de mutation. Et en fonction de chaque type de mutation, on a un traitement donné. C'est ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est-à-dire le bon traitement au bon malade, au bon moment.
Donc c'est une personnalisation
exactement.
À la fois de la cellule cancéreuse et de la personne qui la porte.
Exactement. Avec une bonne, meilleure tolérance que la chimiothérapie, la seule toxicité, c'est la toxicité financière de ce type de produit. Quoi qu'il en soit, voilà. Et donc au niveau du cancer du pancréas, on y revient. Alors on savait depuis de très nombreuses années... quasiment une quinzaine d'années, qu'il y avait un gène particulier qu'on appelle KRAS. K-R-A-S. C'est un gène qui code pour une protéine, là aussi ça rentre dans l'état, qu'on appelle une GTPase. Et cette fameuse GTPase, lorsque le gène est muté, c'est comme un interrupteur. Il va mettre une fonction ON allumée et ça induit une augmentation de la division cellulaire, de la croissance tumorale. C'est la voie de la croissance tumorale qu'on appelle la voie KRAS-MAP-kinase. Et donc, on savait qu'il y avait des mutations. Et la mutation la plus fréquente des cancers du pancréas, c'est la mutation GD2, qui existe dans pratiquement 90% des cancers du pancréas.
Donc cette mutation qui permettait l'augmentation de la multiplication des cellules.
Tout à fait, la multiplication des cellules. Et jusqu'ici... on avait des inhibiteurs de KRAS, c'est-à-dire qui bloquaient cette mutation, seulement...
Qui sont des inhibiteurs biologiques qui existent
Non, ils ne sont pas biologiques, c'est chimique. Hein.
Ah,
ce sont des toutes petites molécules, le plus souvent retrouvées par intelligence artificielle, là aussi. Et on avait une mutation qu'on appelle G12C, mais qui est surtout dans le cancer du poumon et très peu dans le cancer du pancréas. Et puis, on l'a essayé il y a quelques années dans le cancer du pancréas, ça ne marchait pas. Et puis, la révolution, c'est Revolution Medicine, cette biotech, qui a trouvé une molécule, alors dont le nom ça s'appelle le daxonrasabib, donc qui c'est un anti-KRAS qui va donc bloquer cette molécule, mais avec un spectre sur le KRAS très large, qui englobe la mutation G12D que l'on a dans le cancer du pancréas. C'est ce qu'on appelle, si tu veux, une mutation, c'est un inhibiteur assez large. c'est un pancaras et c'est pas ciblé seulement sur G12C ou G12D. Et donc, ils ont fait un essai thérapeutique, c'est-à-dire que nous prenons des patients ayant un cancer du pancréas qui ont une première ligne de chimiothérapie. Malheureusement, ils évoluent. Et au moment de l'évolution, c'est un essai qu'on appelle randomisé, c'est souvent le cas en matière de cancérologie, où on a randomisé les patients entre une chimiothérapie de deuxième ligne, en sachant que malheureusement il y aurait peu d'efficacité, et ce produit donc donné par voie orale tous les jours. Et globalement, c'est ce qu'on appelle un essai de phase 3. Il y a quelques équipes françaises qui ont participé, en particulier l'équipe du professeur Hamel à Paul Brousse. Et on a donc comme objectif, est-ce que ça augmente la médiane de survie par rapport au bras témoin, la chimiothérapie? La réponse est une révolution, puisqu'on double la médiane de survie entre la population traitée par chimio et la population traité par ce nouveau
médicament.
Et
cet effet très favorable est donc lié à une inhibition de la procédure de multiplication cellulaire. Mais on peut quand même se poser la question, il y a crasse qui augmente la multiplication cellulaire,
oui.
Pourquoi elle n'agirait que sur les cellules qui ont muté et pas sur les cellules normales que nous avons tous?
Il y a effectivement des effets secondaires. En particulier, il y a du carasse, ça peut agir un peu aussi sur ce qu'on appelle le carasse sauvage. C'est bien parce qu'il y a du carasse sauvage aussi dans le cancer du pancréas, mais il peut y avoir des effets secondaires, en particulier au niveau de la peau, où il y a pas mal de carasse au niveau de la peau. Et ce que tu dis explique les effets secondaires que l'on a, en particulier avec des rashes cutanées, qui obligent quelquefois à arrêter le traitement. Mais comme la demi-vie de cet inhibiteur, une petite molécule, est très courte, on peut reprendre très rapidement le traitement en diminuant un peu les doses. Mais tu as raison, ça, c'est un effet, si tu veux, lié au fait que le carasse muté est très important dans le cancer du pancréas et un effet différentiel par rapport au tissu sain. Mais effectivement, tu as raison, il peut y avoir aussi quelques effets secondaires. Et si on parle de la moyenne de survie, donc la fameuse molécule de d'Adaxon-Razib, on a 13,2 mois de survie, et dans le traitement avec chimiothérapie, c'est 6,6 mois. Donc on est passé à du 6 à 13,2 mois.
Et ça double.
Ça double. Alors, l'étude est en cours, hein, ce n'est pas des résultats définitifs. Certains vont me dire, mais oui, mais globalement, ce n'est que 13 mois. Mais ça, c'est une révolution pour nous sur le plan conceptuel, parce qu'avant, il n'y avait rien.
Donc, oui.
Voilà. Donc, on en est là. Ça a été présenté donc au Congrès américain. C'est meilleur que la chimiothérapie avec moins d'effets secondaires. Donc, il y a ce qu'on appelle la réponse. Et tu me posais la question, comment est-ce qu'on exprime la réponse en matière de cancérologie? C'est tout simplement, tu fais de l'imagerie. Et si tu vois qu'il y a une diminution de la tumeur dans ces grands diamètres supérieurs à 30%, on parle de réponse partielle. Et lorsqu'il y a une disparition, c'est qu'il n'y a plus de tumeur. Un de mes amis traité au CGFL, avec une molécule à peu près identique, a vu, lui, disparaître complètement sa tumeur. Et une biopsie a montré qu'il n'y avait plus de tumeur évolutive.
Donc, là, il y a quand même deux effets. On peut imaginer, en effet, une crasse qui diminue la multiplication des cellules. Mmh. Mais il y a eu pendant un temps des technologies qui permettaient d'augmenter ce qu'on appelle l'apoptose des cellules cancéreuses, c'est-à-dire la cellule qui, sûr, dans le cycle de vie, toutes nos cellules, il y a une naissance, il y a une durée de vie, puis ensuite, il y a un programme qui fait que la cellule meurt. Donc l'apoptose dans le domaine du cancer, c'était en fait le suicide des cellules cancéreuses. C'est donc une autre approche, ça.
Ah, c'est une approche qui est totalement différente.
Est-ce que les deux sont complémentaires?
Alors, les traitements anti-apoptotiques, moi j'avais travaillé dessus il y a à peu près maintenant 15 ans, j'avais beaucoup d'espoir. Et en fait, ça ne marche que pour les tumeurs liquides en hémato avec les anti-BCL2. Donc on est revenu un petit peu sur la notion d'apoptose, encore que la chimiothérapie peut entraîner aussi de l'apoptose indirectement. Non, ça c'est une thérapie ciblée très particulière, parce que l'évolution en fait de la cancérologie actuellement sur les différents traitements, t'as l'immunothérapie, Et l'immunothérapie est très décevante au niveau des cancers du pancréas, contrairement à d'autres tumeurs. Peut-être qu'on pourra associer ce genre de molécules à l'immunothérapie, mais la tumeur du pancréas était très peu immunogène. Deuxième révolution, c'est ce qu'on appelle les anticorps drogue conjuguée, c'est-à-dire que tu prends une cible sur une tumeur, tu prends l'anticorps correspondant à la cible et tu mets sur l'anticorps soit un produit de chimiothérapie ou bien un produit radioactif, par exemple pour le cancer de la prostate, et tu vas délivrer directement cette chimiothérapie sur la cellule cancéreuse. Ça marche dans beaucoup de cas. Et donc les CAR-T-cells sont aussi une évolution en matière de cancer, mais pas très, pour actuellement, n'a pas beaucoup d'effet au niveau du cancer du pancréas. Il y a la vaccination qui est en cours de développement donc, dans le cancer du pancréas, en particulier les vaccins anti-ARN. Hein. Je vous rappelle qu'on a eu des vaccins ARN au niveau du Covid grâce à la cancérologie qui essayait de les développer pour les cancers, en particulier les cancers du pancréas. Donc il y a plusieurs voies, et cette voie-là, dont je t'ai parlé, c'est la voie des petites molécules, c'est-à-dire des molécules qui vont bloquer la transmission du signal depuis la membrane cellulaire jusqu'au noyau, et qui, si elle est mutée au niveau des molécules, va entraîner ce que tu appelles une multiplication cellulaire, une croissance tumorale. C'est ce qu'on appelle les petites molécules.
Est-ce que ces petites molécules sont spécifiques à une personne ?
Ah non, elles sont pas spécifiques. Elles sont spécifiques à une mutation. Mais, par exemple, prenons un autre exemple, le cancer du poumon, où là on sait qu'il y a des mutations KRAS, mais différentes des mutations, c'est un G12C, tu as aussi de l'EGFR, le produit ne marche que si tu as la mutation donnée. Pour le cancer du pancréas, comme il y a 90% qui ont cette mutation KRAS-G12D, la molécule marche. Alors effectivement, il y a peut-être des patients qui n'auront pas cette mutation, mais il semble que ce soit une action globale du produit, parce que c'est un tri complexe sans rentrer dans les détails, et ça marche pour l'ensemble des tumeurs du pancréas.
Donc ça veut dire que sur le plan du prix de revient des traitements, si on utilise ces petites molécules, ça ne va pas coûter très cher, puisqu'elles ne sont pas personnalisées.
Ah non, elles sont pas personnalisées. Le prix ne dépend pas tellement, si tu veux, de la médecine personnalisée. Le prix dépend du laboratoire, en fait.
On avait l'impression que la médecine de précision était très coûteuse, dans la mesure où on avait un traitement qui était très spécifique pour une personne et pour une tumeur. Oui. Donc on comprend dans ces conditions que c'est un produit unique, finalement, puisqu'on est tous différents.
Dans
le cas particulier, c'est pas tout à fait ça.
Non, c'est pas tout à fait ça, parce que le traitement personnalisé lié au malade lui-même, peut-être avec ce qu'on appelle des modèles, qu'on appelle les organoïdes, ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors c'est vrai que les CAR-T-cells, c'est déjà la médecine liée à personnaliser à la personne vraie. Là, c'est personnalisé à la mutation.
D'accord, alors, en utilisant, je rebondis sur ce que tu as dit, on peut imaginer dans ces conditions que l'intelligence artificielle va avoir quand même un impact assez important les années qui viennent.
Ben oui.
Est-ce qu'on peut alors préciser pour les auditrices, les auditeurs qui souvent, quand ils entendent l'intelligence artificielle, font un bond en disant « oulala, ça c'est extrêmement dangereux ». Dans le cas particulier, comment ça peut être utilisé, l'IA, à la fois dans la phase de prévision, dans la phase de prévention, dans la phase de détection, ou bien dans la phase thérapeutique elle-même, où on va pouvoir simuler par un jumeau numérique, par exemple, simuler un organe avec une tumeur et le produit qui va agir sur sa tumeur, voir comment on peut le mettre en évidence sans qu'on ait recours à une expérimentation clinique, humaine, voire animale.
Ouais, alors t'as raison. Je t'ai raison dans tout ce que t'as proposé comme explication. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Pour moi, c'est un processus qui permet de te donner des éléments que ton cerveau ne peut imaginer. Tout simplement, parce que c'est...
Donc il n'a pas le temps d'imaginer.
Ou que c'est pas un problème d'intelligence, c'est pas possible. Il y a tellement de données, l'intelligence artificielle, ça brasse de quantité de données, et ça donne des éléments pour le développement. Il ne faut pas en avoir peur, il faut savoir le contrôler, c'est un peu différent. En matière de cancérologie, tu as raison partout. Ça peut être utilisé pour sélectionner des molécules. Ça peut être utilisé pour voir les facteurs pronostiques, par exemple examiner des radios, des IRM pour savoir quels sont les signes en faveur d'un cancer du pancréas, et on le fait pour la deuxième lecture des mammographies, par exemple. Ça peut être aussi utilisé, si tu veux, dans le, disons, le parcours de soins du patient. Ça peut être là, être utilisé pour aider le médecin sur le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Donc, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est de l'aide. Ça ne remplacera pas demain le médecin ou le chercheur, mais c'est une aide, très positive.
Est-ce qu'on peut imaginer alors que l'intelligence artificielle aurait une possibilité d'améliorer le pronostic? Parce que le pronostic aujourd'hui, il est quand même assez difficile à faire, compte tenu de la durée de survie du, cancer du pancréas qui est très courte. Est-ce qu'il y a une possibilité avec l'IA qui malaxe un nombre considérable de data et qui va pouvoir en plus bénéficier des data actuelles avec la révolution qui est en train de se passer? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce serait une amélioration quant au pronostic?
Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer le pronostic dans le cancer du pancréas? Un diagnostic plus précoce. Et je crois que là, l'IA permettra, grâce à des études en particulier d'imagerie, ce qu'on appelle la radiomique, de pouvoir améliorer, le dépistage plus précoce. Ça permettra de mieux étudier le séquençage de la tumeur, en particulier de voir aussi dans le sang les ADN tumorales circulant, essayer de mieux les trouver par IA, de trouver de meilleurs médicaments, parce que on a une révolution, mais on sait que le cancer, par définition, il est malin. C'est-à-dire que globalement, il existe aussi des phénomènes de résistance, en particulier pour cette petite molécule. Donc il va falloir trouver ce qu'on appelle des tyrosine kinase inhibiteurs, des molécules comme ça, des petites molécules de deuxième génération. Ce qu'on a fait par exemple pour le cancer du poumon. Et là, l'IA pourra nous aider. Voilà. Moi, je suis très en faveur de l'IA et je veux que l'IA reste en France. Voilà, c'est un autre sujet.
Alors, on va avoir une petite digression en ce qui concerne l'IA. Avec les positions prises par un certain nombre de personnes, Elon Musk ou encore Laurent Alexandre, qui considèrent que finalement nous allons bientôt pouvoir vivre bien au-delà de 100 ans, sinon 1000 ans, puisque c'est un terme qui a même été utilisé. Est-ce qu'on peut quand même imaginer qu'en effet cette nouvelle révolution en ce qui concerne le cancer du pancréas va pouvoir être appliquée à d'autres types de tumeurs? Et avec, dans ces conditions, une amélioration importante dans le traitement des cancers?
Je pense que globalement, en cancérologie, on a fait de grands progrès. Les grands progrès, c'est le cancer du sein, c'est le cancer du poumon, c'est le mélanome malin avec l'immunothérapie, c'est maintenant le pancréas. Il reste des tumeurs qui sont actuellement avec peu de traitement, et je pense aux tumeurs cérébrales. Donc là aussi, l'IA va nous aider globalement. Je pense que l'important, et je reviens au patient, parce que le patient, c'est quand même très important. L'important, c'est de remonter, pas forcément toujours de guérir, mais d'augmenter la survie en préservant la qualité de vie. C'est ça l'intérêt de ces petites molécules, et c'est bien c'est ce qu'il faut expliquer. Et là aussi, l'IA pourra nous aider. Globalement, on ne meurt pas que des cancers, on meurt aussi d'autres maladies, malheureusement, et on meurt aussi du fait des guerres, mais c'est un autre sujet. Et existe, après la cancérologie, une autre maladie qui correspond à la dégénérescence neurologique cérébrale, et là, je pense qu'on a aussi beaucoup de progrès à faire. Moi, je suis cancérologue, donc je travaille sur la cancérologie. C'est vrai qu'en une génération, on a trouvé des choses, on a vécu des choses extraordinaires. La médecine de précision n'existait pas. 50% des cancers du sein mouraient. Actuellement, on les guérit à 85%, et ça, en une génération. Mais tant mieux, et je pense que pour le pancréas, ça viendra.
Alors, on arrive à la fin de notre émission, on peut donc un petit peu rêver. Avoir une vie jusqu'à 1000 ans, ça, je pense que c'est pas demain. Mais il se trouve quand même qu'on est assez étonné du fait que l'espérance de vie augmente, du moins augmentait. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai. Mais en revanche, la durée de vie n'augmente pas. Il y a une sorte de maximum qui paraît être fixé dans notre cycle de vie où, après la naissance, eh bien, on a une évolution qui se fait avec un développement progressif et puis une apoptose, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on va au loin, sinon vers le trépas, et qui reste à peu près fixée Comment on peut expliquer ça? Comment on peut d'un côté dire mais non, on va vivre bien au-delà de 100 ans, alors qu'en réalité, on voit très bien sur les chiffres dont on possède aujourd'hui que la durée de vie maximum est en principe prévue par un cycle biologique qui est pré-imprimé.
Alors, est-ce qu'il y a au niveau de la... Tu sais, les cellules, en vieillissant aussi elles-mêmes, si tu veux, présentent des anomalies qui entraînent effectivement un certain nombre de maladies. Moi, la question, ce n'est pas tellement l'espérance de vie, c'est la vie en bonne santé.
Bien sûr.
Avoir quelqu'un qui vive jusqu'à 105 ans avec des troubles cérébraux majeurs, je ne suis pas sûr qu'on soit devant quelque chose de positif au niveau sociétal, tu vois. C'est un autre débat, mais j'aimerais bien qu'on augmente l'espérance de vie, mais la vie en bonne santé. Et ça, on n'a pas toujours...
Il y a encore beaucoup à faire.
Il y a beaucoup à faire, voilà. On est une révolution du cancer du pancréas, parce que c'est vrai, c'est une tumeur fréquente, qui touche beaucoup de familles, qui est une tumeur... Les gens, quand on a le diagnostic... disent, c'est catastrophique. Bon, c'est un espoir. Pour nous, cancérologues, c'est une révolution, avec tous les effets positifs d'une révolution, mais aussi quelques effets négatifs. Je parlais des résistances. Il faut savoir mieux traiter. Bon, il ne faut pas gâcher notre plaisir aussi d'expliquer
ça. Avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais quand même nous donner quelques règles d'hygiène ou d'hygiène de vie qui permettent quand même de limiter l'incidence du cancer?
C'est éviter les excès, tout simplement. Je suis pas un ayatollah du contre l'alcool. Je suis un ayatollah, par contre, contre le tabac, ça c'est clair. Contre l'alcool, non, faut pas exagérer. Hein. C'est parti aussi de la qualité de vie. Il faut éviter la malbouffe. Si tu vas à un Burger King une fois par mois, il y a rien de catastrophique non plus, tu vois. C'est vrai que éviter les produits ultra transformés. Voilà, c'est éviter l'exposition au soleil. Mais ça, c'est le bon sens. Je crois que c'est tout simplement éviter les excès.
Finalement, être raisonnable.
Être raisonnable. Est-ce qu'on peut être raisonnable en 2026, oui, après la victoire du PSG? Je ne suis pas sûr.
C'est un peu compliqué.
Vu comme dit.
Mais écoute, Pierre, merci beaucoup pour cette émission. J'espère qu'elle aura convenu à beaucoup de nos auditrices et nos auditeurs et qu'on est maintenant à la veille quand même d'une révolution dans le traitement du cancer, notamment du pancréas.
On ne l'a pas dit, mais je pense que ces molécules qui ont été présentées au Congrès américain vont être rapidement disponibles. Aux États-Unis, c'est assez rapide. Je pense que la communauté européenne va se saisir aussi de ce qu'on appelle les approbations, les AMM, et j'espère que les patients en France pourront avoir cette molécule. Il y a plusieurs procédés, il y a l'AMM, mais aussi des accès rapides. Donc ça, c'est un autre sujet pour que nos malades français puissent avoir accès à cette nouvelle molécule. J'aurais préféré que ce soit une biotech française. C'est une biotech américaine, mais là aussi...
Oui, mais les Français ont participé.
Ils participaient à l'étude. Mais je veux dire, la biotech qui a découvert, qui a mis en point ce produit, cette molécule, la doxorubicine, c'est quand même une biotech américaine. Il y a plein de biotech en France et j'espère qu'ils vont...
Eh bien, merci beaucoup pour ces dernières paroles d'espoir. On aura sûrement l'occasion de te revoir encore et de t'écouter. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de votre écoute. À bientôt.
Merci.
La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.